Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce 10e numéro de C'est la faute à la manette. Et nous sommes toujours l'unique émission de radio Tourangelle entièrement consacrée aux jeux vidéo. Je le sais, j'ai vérifié. Cette semaine, nous voyagerons dans les travers de la guerre, dans les méandres de l'Amérique, le tout recouvert d'une grosse couche de sable, ce n'est pas évident à dire. J'ai nommé Spec Ops The Line. Pour m'aider dans cette aventure et à ma droite, il gagne tous les concours du monde, si bien que sa petite amie se pose des questions sur sa fidélité. J'ai nommé Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va ?
Bonjour à tous, bah écoute, ça va. J'ai gagné encore un drone la semaine dernière, donc ça va.
Voilà, et tu seras bientôt célibataire, du coup.
J'espère pas, forcément, mais bon.
Alors, quel est ton jeu du moment, Guillaume ?
Alors, ces temps-ci, je suis en train de jouer à Batman Arkham Knight. J'ai récemment acquis Fallout 4 aussi, donc je joue un petit peu dessus. Et j'ai essayé Miitomo, le jeu de
D'accord, on y reviendra parce que moi aussi je l'ai essayé et c'est très sympa. Alors en face de moi, vous apercevez que personne n'a réagi quand Guillaume a dit Fallout 4, donc c'est qu'il y a un problème. Ah oui, parce que ce soir Tom n'est pas là. Tom est un traître, Tom nous lâche pour
un CDI
et pour une raison pécuniaire absolument infâme. Voilà. Donc il l'a remplacé au pied levé, donc on voit, il a beaucoup plus de barbe que Tom, donc c'est déjà un avantage. Le seul problème, c'est qu'il est aussi un PCiste. Et c'est Ferdi. Salut Ferdi.
Bonjour à tous. Ah, je suis consoleux aussi. Hein,
consoleux,
mais... ancienne génération.
Tu seras le PCiste parce qu'on a besoin d'un PCiste.
D'accord, voilà. Ça me va.
Alors, ton jeu du moment, c'est quoi, dis-moi.
Stardew Valley, un jeu PC.
C'est vrai, voilà. C'est vrai. Bon, bah tu nous en parles juste après. D'accord. Alors, au programme cette semaine, on reviendra donc sur Spec Ops The Line, un FPS sorti sur la génération précédente, injustement boudé à sa sortie, qui a fini par acquérir une superbe aura au fur et à mesure des mois et des années. C'est un jeu qui s'est fait un nom un petit peu sans qu'on s'y attende.
Ouais, tout à fait.
On aura aussi les news et les spin news sur fond de musique de Assassin's Creed Unity. C'est ça qui nous a sélectionné,
ouais.
Guillaume.
Je me suis dit pourquoi pas. Au final, le jeu est très mauvais, mais les musiques sont plutôt sympas, je trouve. Les thèmes de la musicaux sont plutôt sympas. Surtout les thèmes avec les deux personnages de Arnaud et de la fille qui font très Roméo et Juliette, du coup. Voilà.
D'accord, et bah écoute, on y reviendra, on jugera sur place. On aura également la rubrique de Professeur Gorfus qui revient nous expliquer deux nouveaux termes. Donc, on verra, c'est la surprise, je sais pas ce qu'il nous a préparé. On aura également les tests, mon test de Quantum Break. Alors c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui effectivement, mais j'ai pu le tester déjà depuis 4 jours. Et vous allez voir que c'est un test vraiment en exclusivité pour cette émission. Exclusivité presque mondiale.
Émission de qualité, non ?
Émission de qualité, exactement.
Waouh.
Également le test de Splinter Cell Blacklist par Guillaume.
Oui, bah oui, parce que j'en avais parlé brièvement, je crois, la dernière fois, du coup, bah voilà.
Mais on va en parler. Et bah c'est parfait. Enfin, nous attendrons l'apothéose de ce podcast, le débat, agrémenté du traditionnel quiz qui sera le quiz tabernacle. Cette semaine.
Oui.
Donc ça va être beau, ça va être intéressant. Donc,
québécois.
Ça va être québécois et ça va être vraiment vraiment magnifique. Alors est-ce que tout le monde est prêt?
Tout à fait. Hein,
tout à fait.
Bon, ouais. Ferdi, tu es prêt? Guillaume, tu es prêt?
On est parti pour les news du coup.
Et c'est parti pour les spin news pour commencer.
Alors oui, bah donc comme d'habitude depuis quelques semaines on fait les spin news, c'est-à-dire on balance des news et on dit si elles sont intéressantes ou pas.
Ouais.
Donc c'est parti. La première, je te laisse la dire.
Alors, écoute, je vais les faire, hein, du coup il y a pas de souci. Alors il faut dire simplement si on trouve ça cool, si on s'en fout totalement ou si voilà, c'est pas bien. Alors Turok Remastered, le 1 et le 2 arrivent sur Xbox One.
Inutile.
Moi je m'en fous personnellement.
On s'en fout. Eh ben c'est très bien. Call of Duty Modern Warfare 1 et 2 sont offerts avec la version One du prochain Call of Duty.
Oh, c'est bien.
C'est bien.
Pour une fois qu'ils offrent des trucs.
C'est bien.
Et s'il y a le multi dispo, pourquoi pas? Parce que oui. C'était quand même les meilleurs multi.
Non, parce que si c'est que les campagnes, c'est une arnaque.
Non, je pense que c'est l'intégralité. Ouais, ils font une grosse campagne de conversion en ce moment.
Les ventes ont été décevantes.
C'est sans doute ça. Nintendo Miitomo passe les 3 millions de téléchargements.
Je pense que c'est le buzz parce que on n'arrête pas d'avoir de la pub sur notre Play Store, je suppose. Oui. Donc,
mais sinon, non.
Est-ce qu'on y jouera encore dans 3 jours? C'est pas sûr.
C'est pas sûr. On va revenir sur Candy Crush très rapidement.
Final Fantasy XV, objectif de vente 10 millions.
Ils les auront largement.
Ils les auront d'après toi
aussi, enfin... Oui, bah déjà vu les précommandes.
Quand tu vois qu'une collector était à 250 euros.
Il y en a plus d'ailleurs, les 30 millions étaient.
270, je crois même, exactement.
Ah ouais, 270. Ouais.
Pour une figurine articulée, Barbie va chez Final Fantasy.
Et pour avoir des DLC pour faire des photos dans le jeu aussi.
Voilà.
Le seul avantage, c'est avoir la BO en CD. Mais qui écoute des CD encore.
Et c'est en Blu-ray, même pas, c'est en Blu-ray.
C'est en Blu-ray et c'est une horreur. J'ai une BO comme ça, c'est une horreur. On en parlera après l'émission, tu verras ça. Hideo Kojima voulait remplacer David Hayter depuis Metal Gear Solid 3, donc c'est le doubleur de Solid Snake.
Ah non, ça c'est...
Bah non, ouais, non. C'est mauvais.
C'est
enfin.
Mauvais,
c'est pas bien.
C'est Hideo, il est gentil, mais là non.
De toute façon, Hideo Kojima ne bossera plus sur Metal Gear, donc
on va dire
qu'on s'en fiche, hein, totalement.
Tout à fait.
Le DSiWare va fermer ses portes en 2017.
Bah... Qui a une DSi maintenant?
C'est ça, oui.
Merci, c'est exactement ce que j'ai pensé en l'apprenant, cette news.
C'est fini.
Qui utilise encore le DSiWare?
C'est ça. C'est comme le satellite view sur la Super Famicom, c'est fini. Quoi. C'est...
Alors, Oddworld New and Tasty aura une version boîte sur PS4 et PS Vita.
Ça, c'est très très bien.
C'est très très bien. C'est une édition très limitée, c'est ce que j'ai
vu. Et s'ils peuvent en vendre encore plus pour finir au moins la trilogie Oddworld un jour, la quadrilogie Oddworld. Ça serait très très bien.
Game?
Bah oui, pourquoi pas, oui.
Pourquoi pas? Alors, le studio N-Space, qu'est-ce que le studio N-Space? C'est notamment le studio qui a créé le jeu Guest sur GameCube, un jeu où tu joues un fantôme qui prenait des soldats.
Qui prenait possession de soldats ou d'armes.
C'était rigolo, mais ce studio ferme ses portes.
Bah écoute, moi je connaissais pas, donc je m'en fous un peu, enfin désolé, mais...
Bah,
moi,
pareil, que je pensais qu'ils n'existaient plus.
Bah, moi aussi, mais ça me rend un peu triste, j'avais beaucoup aimé Guest.
Mais ils avaient rien fait d'autre?
Ah,
c'est triste,
j'avoue, j'ai
donc
pas
oui, non, bah, tant pis.
Je pense qu'on s'en fiche, hein, finalement.
Oui,
ça fait longtemps qu'ils étaient sous perfusion. Voilà. Et ben, on va passer du coup aux news simples.
Aux news simples, ouais. C'est parti, donc je commence avec les news.
Oui.
Alors, et ben, c'était. On en avait parlé il y a 2 semaines, donc la rumeur sur le design de la manette de la Nintendo NX. Donc, la manette qui ressemblait, du coup, on avait dit à une miche de pain.
Une grosse miche de pain, ouais.
Qui avait un écran, et en fait, il se trouve que c'était. Une bonne blague d'un gars sur Reddit et du coup il se marre beaucoup de voir les réactions qu'ont eu les gens. Donc en fait c'était un énorme fake.
Voilà, c'était fait avec une imprimante 3D du coup. Il l'avait imprimé en 3D, intégré dans une photo et la presse qui est là.
Même les photos de soi-disant schéma prototype aussi.
Non, c'est un vrai prototype.
D'accord,
mais par contre les photos de ce mec là sont sûrement inspirées de ce prototype, mais c'est un fake absolu.
C'est un très bon fait. Nintendo aussi a dû bien se marrer.
Nintendo a dû bien se marrer.
Il a laissé faire parce que finalement Nintendo a pas rien dit sur.
Ouais, Nintendo a pas réagi.
Il réagit jamais Nintendo.
Ouais, j'ai envie de dire oui. La communication, c'est pas les meilleurs.
À part si tu piques Pikachu et tu le fous sur un truc, sinon il se taise.
Et encore, c'est t'as pas vu ce que tu peux faire sur Miitomo parce que.
C'est assez hardcore, j'ai vu des trucs.
Tant qu'on est sur Nintendo, juste un petit mot sur Miitomo, du coup. Donc, ouais. Miitomo, c'est cette petite application mobile qui ressemble à un mi-chemin entre un Facebook et un Twitter avec des Mi. En gros, le jeu te pose des questions indiscrètes et tu réponds de manière plus ou moins.
Tu mets ce que tu veux.
Tu mets absolument ce que tu veux, tu peux poster les photos que tu veux. Ça va devenir n'importe quoi très vite, c'est très rigolo, moi j'avoue que ça m'amuse beaucoup.
Après, est-ce qu'ils vont se mettre à filtrer comme ils font sur la Wii U
Vu comment ils avaient filtré déjà les trucs sur la Wii à l'époque, rien que sur la Wii, ou sur la Nintendo DS, tout ce qu'ils avaient filtré, etc. Ça me semble étonnant de la part de Nintendo de faire ça.
Pour l'instant, il n'y a aucune censure pour avoir essayé, j'ai posté des photos assez particulières, et, et du coup, aucune censure, ça va devenir fou, je pense.
On verra ce que ça donne parce que pour l'instant ça vient de sortir depuis une semaine, je crois. Donc,
c'est ça, c'est la semaine de lancement là.
On peut pas encore capter trop ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est un peu rigolo.
Ou alors Nintendo, comme c'est pas leur machine,
je pense que ça va surtout être ça.
C'est pas leur machine, donc ils laissent le public de ces machines là se débrouiller.
On verra bien. On verra dans 3 jours quand plus personne l'utilisera.
Jusqu'à qu'ils sortent des Amiibo de cette version-là, quoi.
Ça m'en ferait plus à acheter.
Mais merde. Ah, Nintendo, ils sont bons pour te faire acheter des Amiibo.
Ouais. Alors, donc, FF15, il y a eu une grosse soirée sur FF15. Moi, c'est
la grosse conférence.
La grosse conférence Square Enix. Toi, tu l'as suivi en entier,
avec deux comiques américains que personne ne connaît internationalement, donc c'était assez bizarre. C'était vraiment public, enfin, c'était vraiment pas... C'était marqué international partout, mondial, mais c'était concentré, en fait... que sur les États-Unis,
d'accord.
Avec que des acteurs américains, avec que des blagues ou des pubs qui concernent les États-Unis. Enfin, vraiment, c'était très spécial, en fait. Et en fait, ils avaient fait un espèce de surprise en disant il y a 15 surprises durant tout le show, et finalement, les 15 surprises, il y en a 3, en fait, d'intéressantes. Ouais. Le reste, c'était on invite tel acteur, on invite tel machin, il y a tel compositeur qui est là, mais c'était inutile.
D'accord.
Donc c'était long, très long.
Donc
trop long.
Les 3 choses que t'as retenues du coup de cette...
Les 3 choses, c'est l'univers étendu, comme ils veulent faire, donc avec le dessin animé, le film 3D.
Ouais.
Un petit peu de gameplay on a eu, on va pas se plaindre. Et puis la démo quoi, qui était vraiment...
Et surtout la date de sortie.
La date de sortie qui était donnée avant, et durant les 2 heures que ça a duré, il y avait un espèce de bouton rouge où ils arrêtaient pas de faire des fausses blagues où chaque personne voulait appuyer sur le bouton rouge pour avoir la date de sortie. Sauf que on l'avait depuis 3 heures la date de sortie, donc c'est tombé totalement à plat quoi.
Mais c'était plutôt... Donc ce sera le 30 septembre pour ceux qui se demandaient. Après 10 ans de report, il sort enfin le 30 septembre.
Et le jeu sera en entier ?
Le jeu sera en entier.
Oui, ça sera pas épisodique.
Donc la démo est sortie et ça s'appelle FF15 Platinum. C'est une petite démo technique, tout simplement, où tu joues le héros du jeu enfant. Où tu peux voir un petit peu tous les effets que le jeu a, la météo, la lumière, les environnements, comme par exemple, je sais pas, une chambre, un château, un lac, enfin bref, c'est pas très intéressant. Il y a un combat à la fin qui est plutôt sympathique, qui donne
C'est quoi l'ennemi déjà ? C'est un ennemi emblématique de finale, je crois.
C'est
un espèce de garde, c'est ça ?
C'est un gros garde, c'est ça. Et bon, la démo est plutôt sympa, ça termine en un quart d'heure, mais ça donne un petit aperçu de ce que sera le jeu final.
Et ça donne des bonus pour ceux qui font.
Et ça donne.
Voilà. Si vous avez. Non, ça, je crois pour le jeu, ça donne pas un personnage.
Une invocation bonus.
Une invocation, voilà, une invocation
c'est
bonus.
C'est ça, c'est exactement ça.
Ça, c'est cool finalement.
Et c'est plutôt cool et la démo est plutôt sympa, elle est gratuite sur Xbox One,
elle
sur PS4.
Elle est gratuite surtout, oui. C'est ça le truc. Surtout. C'est gratuit. Une démo gratuite d'un jeu, profitez-en.
Ça devient rare.
Moi, je ferais mention quand même au film d'animation, l'équipe de doublage qui a été annoncée, Sean Bean. Aaron Paul et une actrice de Game of Thrones et de 300, donc un casting américain, c'est plutôt original pour. Tu dis du coup que la soirée était vachement américanisée.
Oui, voilà, oui.
C'est rigolo pour un studio qui est quand même japonais de base.
C'est ça.
Donc ça a l'air de vouloir vraiment ramener de l'argent à Square Enix parce que je pense qu'ils sont un peu dans le caca depuis dernier ratage.
Il y a aussi un autre truc aussi, dans la soirée, il y a une voiture qui apparaît dans le jeu, elle sera disponible en vrai.
Je crois,
c'est ça. Donc on peut acheter l'Audi de Final Fantasy XV si vous voulez. Ça va être
donc c'est une édition super collector, avec un DLC bonus dedans.
Par contre, il n'y a pas eu. Ils ont pas d'habitude, ils le font, mais là ils ont pas trop parlé de DLC vraiment de DLC de type mission, des choses comme ça. Donc, j'espère qu'ils vont pas le faire en fait.
Exact. Oui, je pense.
Ouais, ouais. Les DLC de l'édition collector ont l'air vraiment.
C'est anecdotique, c'est des costumes.
C'est anecdotique. C'est... Moi, j'ai vu par exemple un pack pour les photos, pour faire de la photo.
Oui, c'est une.
Je comprends pas le délire enfin, de faire des photos.
En fait, je pense que Final Fantasy XV, c'est un gouffre à pognon. Hein, on peut le dire. C'est, il faut le rentabiliser quoi qu'il arrive. La série animée d'ailleurs est déjà sortie. Enfin, l'épisode 1 est déjà sorti, c'est plutôt sympa. On sait que le jeu sera doublé en français intégralement.
Intégralement.
Ce sera le premier Final Fantasy à faire ça.
Ah si, le doublage de qualité.
Bah, c'est le même studio qui s'occupait de Kingdom Hearts, qui va s'occuper des doublages VF de Final Fantasy XV.
Ah, moi je voulais Squeezie et Norman et Cyprien. Moi,
comme pour Ratchet & Clank.
Comme pour Ratchet & Clank.
Bah oui, c'est dommage. Je comprends pas.
Donc FF15, jouer à la démo, c'est très bien. Hein. Tout simplement, je pourrais
encourager, jouer à la démo.
Bah ouais, comme ça, les gens pourront se donner leur avis avant d'acheter.
C'est
donc, oui,
puis,
c'est
puis
bien.
C'est peut-être leur si elle arrive en top téléchargement, les autres éditeurs vont peut-être se dire tiens, ils aiment bien les démos gratuites comme on faisait avant.
Ouais, ils vont peut-être en proposer, effectivement. Alors, on avait une dernière news, mais c'était Tom qui devait la faire. Mais comme Tom n'est pas là, et ben on va le punir, on va pas faire sa news parce que de toute façon, c'était une news un petit peu particulière et qui n'était pas un sujet plutôt rigolo. Donc, c'est déjà pas rigolo la suite de l'émission. Donc,
on va s'arrêter
là. Et du coup, Ferdi, tu voulais nous parler d'un petit jeu.
Oui, c'est ça. Alors, vite fait, c'est Stardew Valley. C'est un jeu PC que j'ai découvert grâce à Canard PC. Donc, je suis un gros consommateur de Canard PC. Donc,
alors, voilà. Canard PC, c'est un magazine qui traite uniquement des...
Non, pas uniquement maintenant.
Quasiment.
Ouais, quasiment. Mais ils essayent de traiter aussi les gros jeux AAA, les gros blockbusters sur console.
Voilà, principalement PC et un petit encart console.
C'est ça.
Voilà.
Et donc, donc, c'est un petit jeu 2D fait par un seul mec tout seul. C'est pour ceux qui connaissent un peu, c'est Harvest Moon version PC. Donc c'est un jeu où on incarne un petit fermier dans un univers très très mignon, dans un petit village, etc. On a l'héritage de notre grand-père, en fait, on hérite d'une ferme. Mais le but du jeu, en fait, c'est de vivre, en fait, tout simplement. Donc on peut vivre en tant que fermier, on peut vivre juste en faisant copain-copain avec les gens, en marchant, etc. Il n'y a pas de game over, donc c'est un jeu sans fin, sans ennemis, sans méchanceté, en fait, c'est vraiment tout est mignon, tout est trognon. On peut pas, enfin, c'est l'anti-GTA en fait.
C'est,
voilà.
C'est un jeu qui passe le temps et qui est plutôt agréable.
C'est ça qui est plutôt agréable. Avec même une petite quête, un petit donjon en fait, où on peut récupérer une épée pour combattre des petits monstres rigolos à la Dragon Quest. C'est très très mignon.
D'accord. Mm-hmm.
Et c'est surtout en fait l'ambiance générale, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier où il y a les anniversaires des gens, où il y a les fêtes de village, etc. Et on essaye de participer à la vie. Je crois qu'il y a 30 personnages non-joueurs qui ont toute leur histoire. Parce que
ouais.
C'est très limité, donc ils ont tous leur petite histoire, leur petite manie, etc. Donc c'est vraiment un jeu. La première fois qu'on y joue, on dit je vais me faire chier, c'est bon, je vais couper du bois, je vais faire un peu de craft. Il y a une partie crafting. Et au fur et à mesure en fait, que les habitants viennent qu'on rencontre les habitants, il y a un chat qui arrive, on a fait notre première plantation, on récolte notre première patate, on les vend, on peut acheter autre chose. Et là, on se dit il y a un truc. Il y a un truc, et le jeu est bourré de petits clins d'œil geek. Genre, il y a des apparitions de monstres de diverses régions, de divers autres jeux.
D'accord.
Il y a des clins d'œil à des films, à des séries, il y a le nom de certains personnages, il y a des gros clins d'œil à des films, genre de David Lynch, etc.
Ok, donc voilà. C'est un jeu fait par un passionné. Hein.
C'est ça. Alors, ouais. Je crois qu'il faut 14,99€, enfin 15€ sur Steam.
Ouais, sur Steam, ouais, voilà, donc sur la plateforme Steam.
Donc, prenez-le si vous avez. En fait, c'est vraiment un jeu, vous n'êtes pas obligé d'y jouer genre 3 ou 4 heures.
C'est par petite session, c'est ça.
On peut le faire en gros, mais c'est par petite session, reprendre sa petite vie dans son petit village. Et ça fait vraiment du bien, puis on peut vraiment jouer comme on veut, quoi. Ça veut dire que si on a envie de faire full fermier avec une gestion parfaite de l'industrie, de l'agriculture, on peut le faire, ou alors c'est vraiment à l'Animal Crossing, en faisant copain-copain avec tout le monde et en rétablissant un peu en organisant soi-même des fêtes, en refaisant la place du village, des choses comme ça.
D'accord, voilà. Et bah écoute, ça a l'air vachement sympa,
ouais, c'est
cas,
très,
ça,
très
ça
bien.
Me donne envie
c'est,
presque d'essayer, tu
c'est
vois.
Ça. C'est très coloré, c'est de la 2D, mais très très joli, quoi, c'est au-dessus de la Super Nintendo, quoi. C'est ce qu'aurait pu faire la PlayStation 1 en fait.
D'accord.
Je trouve que les designs rappellent un peu Pokémon tout simplement.
C'est ça
aussi.
Bah c'est fait en partie avec les mêmes jeux, enfin le même type de logiciel, quoi.
Ouais. D'accord, ok.
Donc c'est à conseiller, si jamais vous avez pas vraiment les moyens, attendez une petite promo Steam.
Ça
encouragez-le.
Devrait pas
tarder. Voilà, encouragez-le parce que ça mérite. Voilà.
Ok, et bah écoute, un bien beau message du coup. On va peut-être faire une petite pause, Guillaume.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on s'écoute?
Alors, j'ai fait une sélection assez diversifiée aujourd'hui en termes de section musicale. Et là, on va commencer avec le bourrin du début de la soirée. Donc, ce sera une musique de la bande-annonce quand ils avaient annoncé Borderlands 2 à l'époque. Donc, c'était une musique du producteur Nero qui s'appelle Doomsday, peut-être en référence à un certain Batman vs Superman.
On n'est pas dans l'émission cinéma ici.
On n'en parlera point. Voilà, donc à tout de suite sur C'est la faute à Manette, on se retrouve juste après. Donc on vient de s'écouter la musique sur la bande qui faisait la bande annonce du trailer de Borderlands 2, donc de Nero qui s'appelle Doomsday, donc comme le personnage de Batman. Et du coup on invite, il y a Julien qui vient de partir et il y a monsieur Goréfus, professeur Goréfus qui est venu. Bonjour.
Bonjour.
Je vous lance votre générique.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, professeur ?
Il est super, mon jingle. Hein.
Ouais, il est génial.
Il te plaît ?
Ouais, il est un peu court, mais il est bien.
D'accord, ok.
C'est ce qu'il faut.
Alors, salut à tous les gamers et les gameuses. Alors, cette semaine, donc j'ai vu que vous parliez d'un third-person shooter. Moi, ça m'arrange pas, parce que je vous ai expliqué ça la semaine dernière.
Oui, la dernière fois, c'était plutôt first-person shooter.
Ouais, mais bah, c'est presque pareil. Ouais. Ouais.
D'accord.
Du coup, vous voulez me mettre au chômage. Moi, j'aime pas ça.
Chômage,
je me déplace
pas cool.
Juste pour vous, en plus.
C'est pas faux, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous parler aujourd'hui, professeur ?
Bon, alors, je vais vous parler de quelque chose qui s'est développé ces dernières années et qui est vraiment quelque chose de moderne, quelque chose qu'on appelle le free-to-play.
Free-to-play, d'accord.
Free-to-play, voilà.
Ça fait, on dirait le nom d'une box 4G SFR... Ah non, c'est pas ça.
Alors, ça n'a rien à voir avec les box, ça n'a rien à voir avec les frites. Un free-to-play, donc, ou traduit en français globalement, hein, dans mon anglais approximatif, gratuit à jouer.
Hein. Gratuit et à jouer.
C'est très étrange. Donc ça concerne ce qu'on appelle un modèle économique d'un jeu.
D'accord.
Donc
oui.
Un modèle économique, c'est la façon dont un jeu peut être rentable. Voilà, on va partir là-dessus. Donc on en trouve principalement sur les téléphones portables, appelés smartphones, hein, pour vous les jeunes.
Sûr, les téléphones intelligents.
Voilà. mais aussi depuis quelques temps, on commence à les voir apparaître sur consoles portables et sur consoles de salon.
Ouais, bah oui, bien sûr.
Voilà. On peut citer par exemple un jeu avec des tanks.
Ah, World of Tanks.
Voilà, c'est ça. Et le petit jeu avec des Pokémon qui mangent des bonbons. Non, c'est pas ça. C'est Candy Crush avec des Pokémon.
Ah, merde, j'ai
Pokémon
perdu.
Shuffle.
Shuffle, bien sûr.
C'est ça, merci Guillaume. Donc, alors, le principe du free-to-play, c'est quoi ? Donc, si au début du jeu, la progression est plutôt simple, il devient difficile, une fois pris dans l'engrenage, de continuer à avancer dans ce jeu qui est, on le redit, gratuit à la base. Vous pouvez le télécharger gratuitement, l'installer et commencer à jouer.
Gratuitement.
Voilà.
D'accord.
Le problème, c'est que si c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, c'est comme on dit.
Bien sûr.
Moi, je le dis, en tout cas, pas vous. Hein. Donc, le jeu vous propose, une fois que vous êtes bloqué, de commencer à acheter des pièces, des diamants, par exemple, des vies virtuelles, avec,
oui.
Cette fois, par contre, du vrai argent.
Ah.
Et c'est là que ça devient embêtant. C'est-à-dire que le jeu vous l'a joué un petit moment tranquillement, jusqu'au moment où le jeu devient trop dur dans sa partie gratuite et il vous propose d'acheter des bonus pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu.
D'accord.
Alors, voilà.
Donc c'est pas bien le free-to-play un peu.
Alors, le free-to-play, ça joue sur la frustration dans 80% des cas afin d'amener les gens à payer, même s'ils sont pas beaucoup. Voilà. On peut effectivement parler d'arnaque organisée, donc les transactions pour les joueurs qui dépensent pour en chiffrer à parfois des centaines d'euros. On a vu le cas récemment avec le jeu Clash Royale qui vient de sortir. Le premier mondial avoue avoir dépensé plus de 12 000 euros déjà dans le jeu pour pouvoir être premier. Voilà.
Oh.
Ce qui explique que
autant d'argent.
Autant d'argent pour autant de merde. C'est vraiment déplorable, effectivement. Effectivement. Donc, il y a des jeux assez célèbres comme Clash of Clans, Candy Crush que tout le monde connaît, Farmville aussi fut une époque sur le défunt Facebook. Donc presque tous les genres de jeux ont été adaptés en free to play. Vous trouvez des jeux de sport, vous trouvez des jeux de musique, vous trouvez des jeux d'aventure, des jeux de tir comme j'en avais parlé la dernière fois.
D'accord.
Toutefois, il existe des bons et des mauvais free-to-play, comme les chasseurs.
Demandé justement.
Voilà. Donc, les bons free-to-play, ils proposent de payer, mais uniquement pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'avancée dans le jeu. Voilà. Donc, concrètement, quand vous avez un bon free-to-play, vous avez votre jeu gratuit, et si vous voulez investir dans le jeu, c'est uniquement dans des choses cosmétiques, comme des costumes, par exemple, qui est entièrement lié à l'apparence, mais qui n'empêche pas de jouer au même niveau que tous les autres jeux. Voilà. Le mauvais, par contre, t'oblige à payer alors que tu veux simplement avancer dans le jeu.
Et voilà. Un exemple, par exemple, de bon free-to-play ?
Eh bien, je crois que League of Legends peut être le meilleur.
D'accord. C'est ce que je pensais, d'accord, oui. Donc,
League of Legends, donc, du coup, qui propose d'acheter uniquement
des skins, mais aussi
skins,
on peut acheter des personnages plus rapidement, en fait.
Voilà.
Même si avec l'argent du jeu, on peut les acheter sans avoir à utiliser sa carte bleue.
Voilà, donc je pense que la description est assez complète. Est-ce que vous validez ma description ou est-ce que vous voulez y ajouter des choses ?
Un exemple de mauvais free-to-play.
un mauvais free-to-play, eh ben, c'est Candy Crush Saga, par exemple. Hein.
D'accord.
Tout simplement.
Donc beaucoup de free-to-play.
Ou Springfield, les jeux à gestion, tu dois attendre genre 24 heures pour qu'une action se fasse.
En fait, la plupart des free-to-play sont des mauvais jeux. Et c'est ce qui rapporte le plus aux éditeurs.
Voilà, c'est un petit peu la grosse arnaque.
La poule aux œufs d'or pour les éditeurs. Et nous, c'est un peu l'arnaque pour nous, les joueurs qui voulons jouer pour de vrai.
Exactement.
D'accord.
Alors, maintenant, je voulais vous parler d'une deuxième chose.
Ah oui, c'est vrai.
Je vois que le temps avance assez
vite,
bien sûr, effectivement.
Professeur Alizy.
Je voulais vous parler de la gamme budget des jeux. On parle souvent dans nos émissions de platinium, de termes un petit peu bizarres comme ça. Mm-hmm. Donc c'est la gamme budget des jeux. La gamme budget des jeux, c'est quoi ? C'est un jeu qui s'est généralement bien vendu sur une console, donc qui est réédité pour un prix inférieur à son prix d'origine, donc aux alentours de 20 à 30 euros, et qui s'est la plupart du temps agrémenté de tout le contenu qui est sorti en plus dessus. Donc ce qu'on avait expliqué la dernière fois, qui s'appelle les DLC. Voilà. Pour les consoles PlayStation, s'appelle Platinum.
Ouais.
Donc voilà, c'est un nom différent par machine. Chez Microsoft, c'est Xbox Essential.
Alors actuellement, maintenant sur Xbox One, ce n'est plus Essential. C'était sur Xbox 360. Maintenant, ça s'appelle Greatest Hits ou les plus grands succès.
Voilà, donc Greatest Hits comme sur PSP d'ailleurs.
Voilà.
Exactement. Et la mention Nintendo Select pour les trois jeux qui sont de chez Nintendo qui sont sortis en gamme budget. Je pense que tout le monde s'en fiche, en fait.
Je pense aussi, oui.
Voilà, donc elles sont peu prisées des collectionneurs parce que les boîtes sont la plupart du temps très moches. Et voilà.
Les jaquettes sont
affreuses.
Les jaquettes au rabais, en fait.
On est d'accord. Voilà, c'était très rapide. C'était vraiment pour vous expliquer le terme, voilà, en toute simplicité. Vous validez
d'accord.
Également
et
on
bah,
valide.
Écoute, ouais, et en gamme de prix, tu dirais combien, en fait, du coup? Professeur,
une vingtaine d'euros, 30 euros
pour un jeu du coup qui à la base valait 70 euros.
C'est minimum la moitié, en fait.
Minimum la moitié, voilà. Et le jeu.
Enfin de... maximum, je veux dire maximum la moitié du jeu.
D'accord.
Et ça commence à 20 euros.
Et tu dirais combien de temps il faut attendre pour qu'un jeu soit certifié Greatest Hits environ?
Environ un an et demi et presque un million de ventes minimum.
D'accord. Ok.
Voilà.
Mais alors un jeu par exemple comme The Division qui est censé avoir un season pass sur 2 ans. Tu penses qu'il pourra avoir un Greatest Hit rapidement ou non, justement?
Peut-être qu'il aura deux versions Greatest Hit, une par an, et pour se faire enfiler deux fois.
D'accord. Ok,
voilà.
Intéressant. Bah, merci,
merci,
professeur.
Merci, je m'en vais.
Merci.
À la prochaine.
Au revoir. Donc voilà, monsieur le professeur s'en va. Et nous accueillons Julien qui est revenu du coup faire sa petite pause en attendant que le professeur soit venu parce qu'il le déteste.
J'aime pas le professeur, il est nul, il explique mal en plus.
Ouais, oui, on est d'accord.
Je ferais mieux de le faire moi-même. De toute façon.
Je pense aussi, mais bon, voilà.
Voilà. Vas-y, du coup, Guillaume, t'avais quelque chose à nous présenter. C'était le test.
Alors,
de Splinter Cell Blacklist.
Monsieur Tom Gillet n'est pas là pour faire son gage sur Fallout 4. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire un petit test vite fait, bien fait. Donc je vais vous parler de Splinter Cell Blacklist, donc je ne sais plus le combienième Splinter Cell c'est, mais
sixième.
Ça arrive juste après, donc ce jeu est arrivé 2 ans après Splinter Cell Conviction, qui marquait un dérapage pour la série des Splinter Cell. Avant on avait des jeux beaucoup sur la filtration, avec Splinter Cell Conviction on se retrouvait sur un jeu très orienté action, et là on se retrouve du coup avec un scénario plutôt sympa, je trouvais Conviction, qui en fait Sam Fisher voulait récupérer sa fille à tout prix. Et là, on se retrouve du coup avec Splinter Cell Blacklist, donc qui nous raconte les mésaventures de Sam Fisher à essayer de déjouer la Blacklist, qui est une liste de terroristes qui s'en prend un peu partout dans le monde. Et donc, on fait mission après mission, des missions un peu partout dans le monde pour essayer de découvrir qui est derrière cette fameuse Blacklist. Et alors, hormis le fait que le jeu reste agréable à jouer, je trouve qu'il y a un gros vide scénaristique. En fait, on se retrouve à faire une mission, à aller dans notre avion pour améliorer son truc, et pour repartir sur une mission, etc., etc. Alors que dans Conviction, on avait vraiment cet intérêt où c'était une question de vie de mort, il voulait retrouver sa fille, là on n'a plus du tout d'enjeu. On se fait suer, et par exemple, des trucs tout bêtes, mais dans Conviction, on avait un côté agréable qui était la torture, enfin...
Un côté agréable qui était la torture, okay. Vas-y, répète.
Non, les interrogatoires.
Oui.
Ce qui était rigolo, c'est par exemple on pouvait interroger quelqu'un, et si on était dans les toilettes, ça rappelait un peu la scène d'ouverture de Casino Royale. On pouvait lui exploser la tête par exemple dans les toilettes, etc. Et enfin, ça avait l'air vraiment... on sentait qu'il y avait la pression, etc.
Ils avaient repris le concept d'un jeu PlayStation 2 qui s'appelait qui était tiré du Punisher.
Voilà. Oui, c'est vrai.
On pouvait torturer à loisir.
On jouait le Punisher.
C'est ça, on pouvait avec n'importe quel objet du jeu.
Bah voilà, et du coup on avait ça dans Conviction, et ça a été totalement retiré dans Blacklist, où là on a un héros déjà beaucoup plus militaire en fait dans, dans Splinter Cell.
Mais ça se passe chronologiquement avant ou après?
Après Conviction.
Après Conviction.
Donc c'est le dernier, quoi.
Oui, voilà, mais le problème, c'est que du coup, il n'y a plus du tout de scénario. Genre, on quittait Conviction où il avait quitté Échelon, il me semble. Le programme Échelon.
Oh, ça fait un moment, ouais.
Et là, on se retrouve dans Échelon. Voilà, on y est. Comme si de rien n'était. Enfin, il n'y a vraiment pas d'apport scénaristique. Juste que le jeu est plutôt agréable. Le jeu, en fait, vous permet de jouer à la manière que vous voulez. Donc, il y a trois modes. Il y a Panthère, Assaut et un autre. Et en fait, c'est soit il y a le mode vous tuez personne, vous êtes vu par personne. Soit le mode où vous tuez des gens, mais vous n'êtes pas entendu. Soit le mode Assaut, vous êtes un gros bourrin.
D'accord.
Et du coup, le jeu vous fait des scores à la fin pour chaque façon de faire. Il vous incite pas à faire une façon à part certains moments d'action où il faut pas faire de bruit, il faut pas être repéré. Donc là, il faut être plutôt Panthère. Donc, il faut quand même... mettre des silencieux par exemple sur ses armes, etc. Utiliser des gadgets genre un drone pour électrocuter au lieu d'utiliser des grenades incendiaires. Et sauf que dans les dernières missions, on se retrouve qu'avec des ennemis qui sont très, très puissants et que vous ne pouvez pas tuer en une balle. Donc vous vous retrouvez à faire des efforts d'infiltration pendant tout le jeu
pour
se retrouver contre des boss qui sont battables qu'avec au minimum 4-5 balles et du coup ils vous repèrent facilement, donc vous ne pouvez rien faire face à ça. Ce qui rappelle un peu l'effet Deus Ex, Human Revolution, où si vous faisiez de l'infiltration et vous vous retrouvez face à un boss, c'était totalement impossible.
Vous étiez obligé de lui tirer dessus alors que vous
aviez passé le temps à avoir d'armes à feu sur vous. Donc
et tu veux
assez...
faire de l'infiltration surtout, ouais, voilà. Le jeu te le propose
pas. En fait, c'est bizarre, j'ai plus l'impression que tu m'as décrit un Hitman qu'un Splinter Cell.
C'est pas loin.
C'est que des missions pratiquement d'assassinat, etc. Enfin,
C'est pas vraiment des missions d'assassinat, c'est vraiment des missions avec un objectif, genre des fois ça va être trouver machin pour qu'il vous donne des infos sur la blacklist.
D'accord.
Mais ce qui est bien, c'est que du coup il y a des objectifs secondaires dans chaque mission, à chaque mission il faut trouver une clé USB, il faut trouver un PC de la blacklist à pirater, et il faut trouver un otage à appréhender. Et du coup tous ces éléments vous permettent d'avoir de l'argent après pour acheter en fait de l'équipement, ou pour améliorer votre avion, pour par exemple avoir, par exemple, des armes au marché noir, pour avoir de la vie qui revient plus rapidement en mission, etc. Du coup, j'ai trouvé cet élément un peu intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnalisation d'équipement, enfin on a beaucoup de matériel, genre des lampes, comme la fameuse lampe verte de Sam Fisher. On peut choisir vraiment, il y a plein de lampes différentes, selon si vous voulez du thermique, si vous voulez la vision dans le noir, et après ça change pas mal de choses.
Ok.
Mais après ça, on passe un bon moment.
Mais si tu regrettes juste que ça soit pas étoffé avec une vraie histoire, quoi.
C'est le scénario qui est pas intéressant. Après,
un fil conducteur, quoi, quelque chose qui.
C'est
qui
vraiment voilà, il y a des terroristes, il faut les déjouer, etc., etc. Donc on va d'un lieu à l'autre de la carte.
Alors, est-ce que tu le conseilles?
Alors moi, par exemple, je l'ai acheté en collector neuf, 10€.
Alors, ça je pense que ça vaut le coup. Ouais.
Parce que du coup, j'ai eu le DLC Steelbook et la figurine de Sam Fisher, donc ça les valait. Très sincèrement, je pense qu'il n'en vaut pas beaucoup plus.
D'accord.
Je me rappelle, la collector de Conviction, déjà à l'époque, il avait bien baissé.
Je m'en souviens, je l'avais eu.
Une vingtaine d'euros, je pense, on pouvait avoir la collector de Conviction. Là, si vous pouvez avoir le jeu en démat pour 5€, ça les vaut.
D'accord.
Sinon, non.
Donc, on rappelle que le jeu est sorti sur PS3, Xbox 360,
Wii U et PC.
Et PC, voilà.
Donc, en espérant qu'il y refasse un jour un Splinter Cell, pourquoi pas, sur Next Gen.
Oh, c'est possible.
Oui. Vu que Division, ça marche, ouais, Tom Clancy, ils vont continuer à l'appeler.
Prince of Persia va revenir, on le sait.
Voilà. Donc,
Prince of Persia, je sais pas trop.
Donc voilà.
Ça aurait été bien, mais bon, voilà. C'est tout pour moi, pour ce test.
Ok. Alors moi, je vais vous parler assez rapidement, finalement, de Quantum Break. Alors Quantum Break, c'est quoi? C'est le nouveau jeu des créateurs de Alan Wake dont on avait parlé dans une émission, je crois la 7e, hein, si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est ça, il me semble.
Ou
la 8e même.
Ou la 8e, je ne sais plus exactement. De toute façon, vous connaissez nos émissions par cœur, hein, il suffit de les réécouter. Donc c'est leur nouveau jeu sorti après plus de 6 ans de gestation. Ça reste dans le même univers qu'Alan Wake. Concrètement, c'est pas une suite, hein, c'est, on pourrait dire, presque un... Pas vraiment un spin-off non plus, mais on sent que ça s'inspire du même univers, d'un même tout global que
même époque.
On voit même que le héros du jeu lit un livre d'Alan Wake à un moment, plein de petites choses comme ça qui me laissent à penser que voilà, ils essaient de faire un monde global. Donc Quantum Break, c'est quoi? C'est un jeu où vous contrôlez plus ou moins le temps. En gros, vous avez plusieurs pouvoirs, un pouvoir qui vous permet d'arrêter le temps, un pouvoir qui vous permet d'accélérer, un pouvoir qui vous permet de figer des choses, de créer des failles temporelles, voilà. Vous avez été exposé à une machine à voyager dans le temps, vous développez des pouvoirs, et la particularité du jeu, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez un épisode de série télé, tourné avec de vrais acteurs, entièrement, qui dure une petite demi-heure à chaque fois. Donc c'est quand même quelque chose de
très original.
C'est très original. Ouais. C'est un premier essai dans ce qu'on pourrait appeler le cross-média.
Avec un seul support. Surtout.
Avec un seul support. Voilà, c'est un jeu vidéo qui est mêlé à une série télé tout à fait classique.
Parce qu'il y avait déjà eu Falling Sky, mais c'était le MMO. Où il fallait jouer, il y avait un MMO comme ça où on jouait et il y avait une incidence sur une série
télé.
Défiance. C'est ça. Pardon.
Mais là, ça pousse le concept encore plus loin finalement. Parce que c'est vraiment, vraiment des acteurs qui ont été castés pour ça. Enfin, tout a été vraiment fait pour ça à la base. C'est vraiment un tout. Alors, c'est un jeu très court. Hein. Moi, il m'a duré une petite dizaine d'heures. Ça fait un petit peu mal pour le prix.
Une dizaine d'heures avec les cinématiques ?
J'ai pas compté. Je t'avoue, j'ai pas compté. Je dirais aller 12h, 12-13h avec les cinématiques.
Ok.
C'est un jeu qui est plutôt pas mal. Le scénario est plutôt sympa. Ça suit comme une petite série télé qu'on verrait au coin du feu sur Netflix un week-end. Le jeu est pas très difficile non plus, mais ça reste une bonne expérience et je pense qu'on y reviendra. On y consacrera peut-être un petit bout de numéro une prochaine fois. Je pense qu'une fois que tout le monde ici l'aura fait.
Ouais, bien sûr.
Je te le prêterai d'ailleurs.
Je ferai bien avec grand plaisir.
D'accord. Bah écoute, moi pour l'instant je le conseillerais peut-être pas au prix fort. Attendez un petit peu qu'il baisse, une quarantaine d'euros, ce serait peut-être parfait pour ce jeu.
C'est ça le grand souci avec les jeux solo aujourd'hui, c'est que. Parce que ça a un intérêt d'investir 60 euros dans 10 heures de jeu, quoi. C'est toujours ça le grand souci maintenant.
Ouais, mais après il faut se dire, est-ce que tout le travail engendré derrière ne mérite pas qu'on.
Bien sûr.
Parce que quand tu parles du truc, enfin quand tu parles des passages filmés, forcément, moi ça me donne, ça me donne presque envie en fait.
Mais c'est vraiment vraiment.
En fait, ils ont vraiment travaillé une histoire. Là,
c'est ça. Et ils ont pris des vrais acteurs, ils les ont modélisés vraiment super bien dans le jeu.
Sean Ashmore, il y a aussi Littlefinger de Game of Thrones.
Oui, c'est ça. Ouais, non, il y a des grands acteurs en plus dedans et. Ça donne envie, mais une quarantaine d'euros, je pense que ce sera le juste prix pour moi.
Tu penses qu'il y aura des DLC comme Alan Wake ?
Possible.
Est-ce que ça donne l'impression qu'il pourrait y avoir, par
exemple ? Oui, complètement. C'est une fin, on va dire, avec un mini cliffhanger qui pourrait laisser penser qu'il y aurait une suite comme.
Et un crossover avec un Alan Wake ?
Non. Clairement, non. Alan Wake, déjà, qui sort un 2. Et ensuite,
un vrai 2.
On en parlera. Voilà.
D'accord, ok. Moi, j'avais déjà envie en ayant vu des images du jeu. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que moi, je me disais pas l'acheter, ça fait un peu cher, mais bon, on verra bien.
Tu l'auras gratuitement car je te le prête.
Oh, c'est gentil, merci. Mon bon seigneur.
Et ben, du coup, on va faire une petite pause musicale.
Ouais, bien sûr.
Et on revient avec le débat juste après. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Guillaume ?
Alors, on va s'écouter une musique de Johnny Mathis, donc ça vous dirait un peu, c'est peut-être normal. C'est de l'OST de Bioshock Infinite, les DLC. Les DLC, Burial at Sea, qui s'appelle Wonderful, Wonderful. Donc on se retrouve juste après sur C'est la faute à Manette. A tout de suite.
A tout de suite. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool salty air. To me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare.
Feel the glow of your unspoken folk in love, I'm aware of the treasure.
On vient de s'écouter la musique de l'OST de Bioshock Infinite, Burial at Sea. Donc c'était Johnny Mathis avec Wonderful, Wonderful. Et on est toujours sur C'est la faute à manette et on va passer à l'heure du débat.
Oui, alors c'est l'heure du débat. On va parler donc de Spec Ops The Line. Je vais vous parler un petit peu du jeu en général. Spec Ops The Line, donc c'est un jeu de tir à la troisième personne, donc TPS, qu'on avait dit la dernière fois. Sorti le 29 juin 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC. Donc on incarne le capitaine Martin Walker, le sergent John Lugo et le lieutenant Alphonse Adams, membres des Delta Force, qui sont chargés de retrouver le colonel John Conrad suite à la captation de son signal de détresse. Le joueur se retrouve donc dans la ville de Dubaï qui a été ravagée par des tempêtes de sable hors du commun. Dans cette uchronie, vous explorez la riche cité de Dubaï et tenterez de comprendre pourquoi le colonel John Conrad a échoué dans la mission qui lui avait été confiée, c'est-à-dire évacuer les civils de la ville. Voilà. D'accord. Alors, avant d'aller un petit peu sur les graphismes, sur tout ce qui fait la partie technique du jeu, comment vous avez connu ce jeu, les amis? On va commencer par toi, Fait.
Canard PC.
Canard PC.
Voilà. D'habitude, ils shootent les magazines, les trucs de jeux vidéo de cons de guerre, ils les massacrent, parce que bah, ils aiment pas la guerre, et là, voilà, ils l'ont
adoré, et du coup, ça t'a donné envie de le faire.
C'est ça.
D'accord, très bien. Guillaume.
Alors moi, je me rappelle à la sortie, j'avais vu les game live, enfin tous ces trucs-là, rapidement. Et après, j'ai eu un Humble Bundle 2K Games où j'ai reçu le jeu pour 90 centimes, donc je l'ai acheté. Et j'en avais entendu beaucoup parler, en fait, un ami qui faisait de la promo pour un magazine sur Spec Ops The Line. Du coup, je me suis dit, oh, ça doit être intéressant comme jeu, donc c'est comme ça que je l'ai découvert.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on va commencer tout simplement par la partie technique. Donc, graphiquement, ce jeu, vous en
déjà,
pensez quoi?
Quelle génération?
Xbox 360, ouais, je l'avais dit au début, PS3 PC. Et PC, voilà. Donc c'est un jeu de tir à troisième personne qui est plutôt joli d'ailleurs, hein, pour son époque. En gros, c'est un petit peu jeu de shoot le plus basique du monde, en fait. Tout simplement, il ressemble à n'importe quel autre jeu de shoot à la base. On incarne un soldat américain qui doit tuer des civils, le drapeau américain, la musique américaine, blablabla, tout ce qui pourrait faire un petit peu de ce jeu un jeu complètement oubliable. On est d'accord jusque là?
Pour l'instant, oui.
Donc, il se joue aussi très simplement. Hein.
C'est une sorte de Gears of War.
C'est comme un Gears of War. On avance, on se cache, on tire.
Les ennemis sont cachés derrière les petits abris. Différentes armes. C'est vraiment très. Enfin, c'est très pas très original sur ce point-là. Quoi. C'est pas.
C'est un TPS basique. Ouais.
Voilà. On note par contre l'utilisation des tempêtes de sable dans le gameplay. Donc pas à tout moment, mais on va dire que c'est assez scripté, mais c'est plutôt bien foutu. Il peut y avoir des tempêtes de sable parce que le jeu se passe donc à Dubaï et on est très souvent dehors, donc dans les déserts, et on peut à n'importe quel moment se faire envahir par une tempête de sable. Et il faut aller, je crois, vite se cacher. Pour éviter d'être complètement enseveli. En plus, on voit absolument rien, on peut se faire tirer dessus depuis une tempête de sable.
Et ce qui est bien, c'est que par contre, durant les tempêtes, les ennemis aussi sont aveuglés. Ils ont géré ça. Donc ça veut dire que si on est assez courageux et on sait où sont les ennemis, on peut les prendre par surprise.
Voilà.
D'accord.
Alors, ce qui aurait pu être un jeu de guerre finalement sans saveur, s'est révélé un jeu que ici, tous les trois, on adore qu'on adore tout simplement, qu'on conseille énormément. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas un simple jeu de guerre. Au contraire, il a été révélé, en tout cas une fois qu'on avance un petit peu dans le jeu, que le jeu devient très vite finalement un appel
à la réflexion,
à dénoncer la guerre, à dénoncer un petit peu les médias américains, à dénoncer tout ce qui est la violence, même à nous interroger sur nos propres actions de joueurs.
Notre propre morale.
Alors, ça, comment ça se manifeste? Est-ce que quelqu'un veut commencer à en parler un petit peu?
Je sais pas si je suis le mieux à amener à en parler parce que moi ça fait
moi ce qui m'a enfin le jeu par exemple c'est la découverte en fait petit à petit du scénario en fait et de bah, par exemple des cadavres etc. Enfin au début on voit des enfin je sais plus si c'est au début mais on voit en fait c'est la découverte de petit à petit que la guerre tout personne est bien enfin il y a pas de gentil il y a pas de méchant quoi. C'est aussi ça, c'est le côté non manichéen du jeu, de la guerre, et le jeu le montre très bien. Quoi.
Voilà, c'est un des rares jeux d'ailleurs qui peut se permettre de montrer ce genre de choses, parce que c'est vraiment tout finalement sauf américain.
C'est ça, totalement.
On a l'impression au départ d'être devant un gros blockbuster.
À la Michael Bay,
voilà, avec des explosions partout, des choses comme ça. Et finalement, le jeu révèle une profondeur à un moment qui fait que, voilà... Là, on est pris aux tripes et on commence à se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Est-ce que finalement c'était pas idiot tous ces jeux qui me demandaient de faire la guerre sans réfléchir ?
Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu propose énormément de choix, mais à aucun moment c'est des choix qui sont logiques, imposés, puis surtout que c'est des choix logiques. C'est-à-dire qu'on nous propose de faire la guerre ou la guerre. À aucun moment on nous propose de faire
le bien ou le mal.
Voilà, le bien ou le mal. Il n'y a pas de sens moral donné comme ça au joueur. C'est au joueur d'oublier ses réflexes, en fait.
Voilà, ouais. Alors, disons, ce qui se manifeste au début, c'est... Donc, on va dire que la toute première partie du jeu est très classique. Hein.
Oui.
On arrive à un moment dans le jeu où Martins, hein, c'est ça, hein, et ses hommes arrivent devant une espèce de... Donc, ce qu'ils croient être, en tout cas, une base ennemie. Il voit une cinquantaine, soixantaine de personnes en se disant « Écoute, on va pas y aller comme ça, sinon on va se faire défoncer. Donc le mieux, ce serait, voilà, t'as des surplus de l'armée américaine qui sont dans le coin, on va les attaquer avec du phosphore blanc. »
Oui,
c'est ça. Le phosphore blanc, pour expliquer, c'est un espèce de gaz moutarde amélioré, on va
c'est
dire.
C'est ça, oui.
Le nouveau napalm.
C'est un nouveau napalm, c'est quelque chose de très puissant, de très dévastateur.
Qui ne touche pas, pratiquement pas le matériel, ni les biens physiques.
Voilà, ça permet de récupérer le matériel en tuant les civils. C'est quelque chose d'assez horrible.
Épouvantable.
Donc, le colonel Martins et ses hommes se mettent à bombarder donc, du coup, ce petit campement. Partent à la recherche, voilà, de ce qu'ils peuvent trouver.
Ils bombardent, mais c'est nous qui...
C'est le joueur qui fait l'action.
C'est pas une cinématique, on fait le bombardement. Ouais. Voilà, t'as une mission d'un Call of Duty, etc., avec le visuel d'ailleurs de la guerre,
ouais,
avec ces visuels blancs, noir et blanc, vision infrarouge, vision nocturne, infrarouge, voilà. Donc c'est vraiment une partie de gameplay, quoi. On est dans un jeu de guerre, on tue les ennemis.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, le capitaine Martins et ses hommes vont aller voir à cet endroit-là et s'aperçoivent qu'en fait, ils ont bombardé des civils. Des civils qui n'avaient rien demandé à personne, qui étaient juste là pour fuir la guerre. Et notamment ce point d'orgue du jeu qui est le capitaine Martins qui découvre une femme avec son bébé qui ont été complètement ravagés par le napalm.
C'est une scène très dure visuellement parce que c'est très gore. Les cadavres sont vraiment mutilés, brûlés à un degré extrême, etc.
Et c'est un des rares sentiments que le jeu vidéo nous fait très peu ressentir, qui est la honte. Je pense ne jamais avoir ressenti beaucoup de honte en jouant à un jeu vidéo.
Ouais. À part si tu joues à Mon Petit Poney ou un truc comme ça.
Voilà, mais c'est une honte différente.
Ouais,
exactement.
Voilà.
C'est la honte d'être vu. Là, c'est la honte de tes actions. Et ça, c'est très très rare. Et c'est à partir de ce moment-là où le jeu devient absolument incroyable et qu'on sent qu'il y a un état de délabrement sur le personnage du capitaine Martins qui va crescendo. C'est-à-dire on le voit dépérir, on le voit avoir des hallucinations, on le voit devenir de plus en plus méfiant, même envers ses coéquipiers, à se demander qui sont les vrais ennemis, pourquoi je suis un soldat. Quel est le bon côté ?
Il reflète l'état d'esprit du joueur, en fait, qui se retrouve d'un coup à un jeu qui... on me demande pas de tuer les méchants, on me guide pas forcément, j'ai mes réflexes d'ancien joueur, je tire sur tout ce qui bouge, mais c'est la guerre, et là, il y a des... Enfin, ça change les règles.
D'accord, on suit
le personnage, enfin, je trouve que moi, quand j'ai joué, le personnage qui devient petit à petit fou, ça, c'est comme toi, tu es en train de te dire, mais... Tu joues à quel jeu, en fait? Je veux jouer à un jeu de guerre, moi je veux me défouler.
C'est ça, mais pourquoi je fais ça?
Voilà, pourquoi je fais ça?
Et il y a une autre scène qui vient du coup interroger notre côté joueur. C'est une scène où les civils sont un petit peu en colère et on les comprend. Même moi je pouvais pas leur en vouloir à ce moment-là.
Non,
où il y a une espèce de situation de danger où plein de civils arrivent sur toi.
Et une énorme cinématique d'ailleurs, c'est après une cinématique en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une cinématique. On se dit, il va avoir le petit. petit twist ou le petit machin. Et non, d'un coup, on te donne la manette.
Ouais, c'est ça.
Alors, on te libère.
C'est ça, on te lâche en plein milieu de l'attaque, entre guillemets, des civils.
Et tous tes boutons sont activables.
Et tous tes boutons sont activables, tu peux tirer, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ton premier réflexe, en tant que joueur habitué à ce genre de jeu, et l'ayant fait pendant 10 heures avant, tu te mets à tirer sur la population. Donc, effectivement, la population prend peur, s'en va. Alors que le jeu te proposait, et ça, c'est un retournement qui m'a tué à l'époque, le jeu te proposait de tirer en l'air une semonce.
Sans te le dire, mais tu pouvais le faire.
Sans te le dire, mais tu pouvais le faire.
Ou au sol, tu pouvais juste tirer une balle, deux, trois balles. Tu
n'avais pas besoin de tuer quelqu'un. Mais c'est un moment assez horrible, puisque c'est un moment de tension, et même tes coéquipiers te mettent la pression pour que tu te débarrasses d'eux, parce qu'ils sont énervés, ils n'en peuvent plus, ils deviennent fous. Et voilà, c'est un jeu qui m'a interrogé, moi, personnellement, sur ma place de joueur, ouais.
La guerre, la guerre existe toujours, mais la guerre n'est pas forcément un jeu. C'est aussi c'est un des rares jeux, d'ailleurs, qui prend la guerre comme elle est vraiment, quoi.
Comme ce qu'elle est, ouais. On peut aussi retenir cette anecdote. On fera le quiz sur la fin. Je vois que tu regardais, on fera le quiz à la fin pour détendre un peu l'atmosphère.
Oui, parce que là, oui,
c'est assez lourd. Au début du jeu, en fait, on voit le drapeau américain avec un soldat, donc vraiment type blockbuster. Et une fois que vous avez terminé le jeu, vous avez le même drapeau américain, mais criblé de balles, ou déchiré de partout. Et avec le héros qui se tient la tête comme ça, et la musique américaine, mais qui est ralentie et jouée avec un espèce
de l'hymne de Jimi Hendrix,
c'est ça. Et complètement déformé, et du coup, on s'aperçoit bien ce que le jeu essaie de faire, c'est de critiquer un petit peu la guerre, un petit peu les médias, la société américaine.
C'est la propagande américaine.
Voilà, c'est le mot que je cherchais, exactement.
Et la propagande de la violence aussi.
La propagande de la violence. Même le jeu t'interroge à plusieurs fois sur ton statut de joueur, surtout en disant...
Il brise le quatrième mur très souvent.
Voilà, il brise le quatrième mur. Il te dit, par exemple, c'est les jeux vidéo qui t'ont rendu comme ça.
Qui t'ont donné des réflexes de tueur.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il y a également plusieurs fins dont on ne va pas parler, mais effectivement, elles reflètent un petit peu la descente aux enfers du personnage. J'en citerai juste une où le personnage devient tellement fou que l'équipe chargée de le récupérer après la mission, en fait, il les prend aussi pour des ennemis, donc il se met à attaquer tout le monde et finalement, on est dans un syndrome post-traumatique.
Ouais, c'est ça.
Complètement, en fait, et le jeu va jusque-là. Jusque-là.
C'est qu'au lieu d'avoir un héros qui se sublime, on a un héros qui devient décadent, en fait.
Qui tombe en enfer, qui a l'impression...
On n'a pas l'habitude, en tant que joueur aussi, de voir ça, nous. Justement, un jeu est toujours fait dans une structure narrative pour t'améliorer, devenir de plus en plus fort, pour combattre les ennemis de plus en plus. Et là, justement, c'est tout le contraire. C'est qu'on s'affaiblit à hauteur qu'on voit les conflits, la guerre, les morts, les cadavres. Enfin, c'est intéressant.
Et donc, le jeu se pose là où il semblait être pareil qu'un Call of Duty, finalement. Il se pose entièrement à un Call of Duty qui est là.
Ou un Battlefield, qui
eux sont là pour se défouler et simplement jouer à la guerre. Là, on ne joue pas à la guerre, on est à la guerre. On en subit les conséquences. C'est terrible et c'est un jeu qui est difficile à conseiller parce que c'est un jeu qui est très dur à jouer. Enfin, pas très dur à jouer, mais très dur à supporter.
C'est ça.
Moi, personnellement, je vous le conseille parce que c'est un jeu que tout bon joueur devrait faire une fois dans sa vie.
Même si vous aimez pas les jeux de guerre, c'est encore plus. Si vous aimez pas les jeux de shoot, pan-pan, boum-boum,
si vous êtes pacifiste, au contraire, essayez le jeu là et ce sera la meilleure des arguments contre la guerre. Est-ce que donc tu conseilles ce jeu, bien sûr?
Je conseille absolument. Il est très dur à trouver, malheureusement, sur PlayStation 3, Xbox 360 à cause de la rareté du jeu. Il n'y en a pas eu beaucoup de sorties. Donc, la version PC sur Steam. Très souvent en promo.
Oui, très souvent en promo. Je l'ai eu dans un Humble Bundle, donc c'est dire.
Donc profitez-en.
Alors Guillaume, tu conseilles également ce jeu?
Je pense que oui, c'est une expérience assez intéressante qui devrait être mise à la main de plus de joueurs. Je pense qu'aujourd'hui les jeux les plus joués, c'est les CS, les Counter-Strike, les Call of Duty, etc.
Ouais.
Donc ce serait bien de voir que les gens ils aient une certaine réflexion, je pense. Si vous êtes des parents et que vous trouvez que vos enfants jouent à trop de jeux de guerre...
C'est parfait.
C'est vraiment un bon jeu pour expliquer ce que c'est la guerre pour de vrai, ça peut être bien.
Totalement.
Je dis pas quand on joue un jeu, on aime bien se défouler, mais c'est important aussi de voir que la guerre c'est pas forcément bien non plus.
Ouais.
Ce n'est pas ce qu'on voit dans des jeux genre Call of Duty. Voilà.
D'accord.
C'était mon mot de la fin.
Ce sera le mot de la fin. Du coup, ça aurait été très court mais très intense puisqu'on voulait absolument vous en parler. On va finir sur quelque chose de plus joyeux, un quiz que je vous ai préparé, Guillaume. Je t'ai même préparé une musique à mettre en fond.
Eh ouais, passe la mer, regarde.
Ce sera juste pour une partie de la... Donc attends, avant de la lancer, ouais. Donc, je vous explique, c'est un quiz un peu particulier. J'ai traduit des noms de jeux, en fait, façon un petit peu québécoise, un petit peu avec des noms à la con. Des fois, j'ai un petit peu abusé sur la traduction en, en traduisant littéralement. Il faut retrouver donc à partir de ces noms français le nom du jeu, qui est en anglais, évidemment.
Donc voilà. Pour prendre la parole, on dit notre prénom.
Vous dites votre prénom ou votre pseudo. Et je...
Voilà.
Et voilà, tout simplement.
Et plus rapide, ok. D'accord, voilà.
Ok, et bah c'est parti.
Je Vas-y. Lance la musique.
Oui.
Ok, c'est lancé.
Ok.
Alors, génial.
Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le...
On est dans l'ambiance.
Parfait. Alors, le premier jeu de la liste, ce sera Mort dans le sang.
Mort dans le sang...
C'est traduire littéralement.
Guillaume Death in the Blood.
Non, c'est un jeu récent assez difficile sorti sur PS4.
Ah, Guillaume Bloodborne.
Oui, oui, ah, un point pour toi, Guillaume.
Bien joué.
Alors, alors le deuxième jeu, c'est Les 4 morts de la gauche.
Guillaume Left 4 Dead.
Oui,
plus rapide.
C'est beau. Troisième jeu, Le casseur de cantiques.
Ferdi, Candombray.
Oui,
on l'a.
Alors, la dernière Fantasy XIV en ligne.
Guillaume, Final Fantasy XIV online.
Oui, merci.
C'était simple celle-là. Ouais.
Les chiens qui font dodo.
Guillaume, Sleeping Dogs.
Merci.
Ah oui.
Les chiens qui font dodo.
L'angle du miroir, le catalyseur.
Guillaume, Guillaume, Mirror's Edge Catalyst.
Oui.
Le 2, donc.
Ah, c'est horrible.
J'en peux plus. Les pleurs lointains, Instinct Primo.
Ferdi,
oui.
Far Cry Primal Instinct.
Oui, exactement. GG. Bien joué, bien joué, bien joué.
J'aurais pas trouvé.
Huitième jeu, Flingue.
Guillaume, Gun.
Oui, tout à fait.
Eh non, oui. Guns.
Alors, neuvième jeu, Les mécaniques de la guerre, le jugement.
Les mécaniques de la guerre, le jugement. Les mécaniques de la guerre.
Alors, c'est, ça peut être littéral, hein, ou j'ai peut-être un peu abusé aussi hein, sur la traduction.
Putain, <ouais. rire>
Les mécaniques de la guerre. On peut dire aussi les rouages de la guerre, si ça vous dit.
Medal of...
Non, bah non,
bah non, pas Medal of... Gears of War, Judgment.
Oui,
bien joué,
bien joué,
bien joué, bien joué.
Alors, les terres tarées sur les bords.
Les terres tarées sur les bords.
Là, j'ai un peu abusé.
Les terres, les terres.
Les terres, les terres.
Terres tarées. Borderlands.
Oui, exactement. Merci.
Voilà. Là, j'avoue, bien joué quand même.
Onzième, mais il y en a 15. L'esclave part à l'aventure vers l'ouest. Attention. Ah, vous le connaissez, vous le connaissez.
Ah, bah oui, forcément.
L'esclave part à l'aventure vers l'ouest. Dans l'ouest, hein.
Vers l'ouest.
Slave.
Je sais pas du tout.
Ouais, j'en vois pas, ouais.
Enslaved. C'était Enslaved.
Ah, Enslaved,
Odyssey to the West.
Ah, oui.
12ème, on va bientôt terminer. Le droit de mourir et d'être rétribué.
Dead to right retribution.
Merci.
Ouais. Avec le chien.
Monter plus haut dans le cauchemar avec Kinect.
Ah, oh, c'est le jeu.
Oh, il est mauvais ce jeu. J'ose pas le noter. Vas-y.
Ah, je l'ai pas.
Oui, je fais la jaquette, mais il y a Nightmare dedans.
Oui, oui, voilà. Allez, on va te l'accorder. C'est Rise of the voilà, Nightmare
Rise of the
for
Nightmare Kinect.
Kinect. Alors, la vie c'est étrange, sûrement parce que je suis une gamine de 16 ans qui joue avec le temps.
Life is strange.
Merci. Et le dernier, du coup, pour terminer, mais Guillaume a déjà gagné, mais c'était très bien en tout cas à Ferdi. La Brute, édition écolière.
Bully Scholarship édition.
Et voilà, donc
bien joué.
C'était le mot de la fin. On vous remercie de nous avoir suivis. On a un petit
tous.
Peu débordé, désolé pour celui d'après. On vous dit à dans 15 jours pour un sujet qu'on n'a pas encore défini. On vous dit à la prochaine
voilà,
fois.
Voilà, et on laisse
la faute à la manette.
L'antenne à Just Story. Et à plus sur C'est la faute à manette. À bientôt.
À bientôt, salut.
À bientôt.